Tristan Demers, merci d'être là encore aujourd'hui.
Toujours un plaisir.
Alors, comme on l'avait dit, on fait cette balade-là pour aller encore plus loin sur le sujet des activités parents-enfants qu'on peut faire pour favoriser autant la créativité que simplement des moments de qualité en famille. Alors, j'y vais avec ma première question. Alors, aujourd'hui, on se parle, c'est un jour de tempête, il n'y a pas d'école, les écrans représentent toujours la solution facile pendant ces journées-là, mais on sait que c'est loin d'être la solution optimale pour le développement de nos enfants. As-tu des idées créatives à proposer à nos enfants, autant pour l'intérieur que pour l'extérieur, lors de ces journées-là?
Bien, pour l'intérieur, moi, ce que je faisais beaucoup avec mes enfants et ce que je faisais personnellement quand j'étais petit, c'est que je me créais moi-même mon jeu de société, une espèce de jeu de serpent et échelle, par exemple, ou de sur un grand carton qu'on achète au magasin du 1$, on se crée des cases, on les numérote. Là, on se fait nos espèces de serpents et échelles rigolos où on décide qu'à telle case, on recule de 3 ou à telle case, on avance 2. C'est bien, bien simple. Mais je trouve que non seulement l'idée, c'est de jouer à un jeu de société, mais de tester le jeu qu'on se crée sur un grand carton. Quand j'étais petit, je prenais des bouchons de liège ou autre chose pour faire mes pions. À la limite, un 25 sous ou une figurine, par exemple, que les enfants ont, qu'on a ramassé dans un joyeux festin, dans un restaurant de burger à quelque part, peu importe. Mais ouais. Ce qui est le fun, c'est de se fabriquer notre propre jeu de société. Ça, j'aime bien l'idée. Puis l'extérieur, excuse-moi, je vais dire.
C'est intéressant aussi parce que la créativité, on peut l'avoir autant dans concevoir la plaquette de jeu puis les jetons, comme tu dis, que dans les règles. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je brasse un 3? Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive sur cette case-là? C'est une belle créativité
Exactement. Qui
n'est pas nécessairement matérielle. Mais qui peut stimuler beaucoup les enfants.
Exactement. Un grand carton, des crayons de couleur de bois, crayons de feutre, peu importe, quelques pions qu'on s'improvise, puis évidemment un ou deux dés. On s'invente notre jeu de société. On vient de sauver 35$ en passant.
Oui.
D'en acheter un autre. Puis il est pas mal plus le fun parce que l'enfant aime tester le jeu qu'il a créé avec ses parents en plus. Fait que je trouve ça vraiment cool comme activité. Activité extérieure aujourd'hui, bon, plus tempête, mais sinon, évidemment, jouer dans la neige, se reprendre contact avec les éléments extérieurs, parce qu'on y va moins qu'avant, on est beaucoup devant l'écran, on en joue moins dehors. Les parcs sont vides, même quand il fait beau, ou presque. Alors, il faut qu'on se donne le petit coup de pied au derrière. Il faut qu'on se fasse violence un peu, on dirait beaucoup plus qu'avant. Pour décider d'aller jouer dans la ruelle ou dans le parc ou dans la cour arrière. C'est particulier quand même.
Oui, c'est vrai. Comme parents, on achète souvent des cadeaux à nos enfants, c'est pour les anniversaires, pour Noël, ou à nos neveux, nos nièces, aux amis de nos enfants pour leurs anniversaires. On sait que certains jouets vont stimuler plus que d'autres la créativité. As-tu des suggestions de cadeaux, sans faire de la pub, là, mais qui permettent aux enfants d'être plus créatifs?
Mais c'est vraiment les outils, même dans les magasins à 1$, tous les outils qui nous permettent de... Vous savez, tu sais, il y a un retour du tricot, c'est un peu drôle hein, de voir ça, mais on dirait que en espèce de réponse à l'omniprésence de l'écran, il y a un retour à quasiment des vieilles activités de nos arrière-grands-parents, là, quasiment faire justement tricot, courte pointe, l'espèce de truc lénaire et tout ça, on trouve ça au magasin à 1$. Moi, je trouve que ça peut être un jouet rigolo, mais pas rigolo, créatif, mais surprenant. C'est créer ton propre tapis. Tu as envie que le motif de ton tapis avec tes bouts de laine, puis que ça soit un bonhomme de Pokémon rendu là, c'est pas grave, tu vois. Fait que ça devient le prétexte. Donc ça peut être cool.
C'est apaisante aussi pour l'enfant, parce que même pour les adultes, parce qu'on dirait qu'il y a de la créativité, puis en même temps, ce n'est pas de la surstimulation du cerveau constamment par l'environnement.
Donc, exactement. Ou bien se faire une marionnette avec une chaussette. On a juste à tasser la sécheuse à la maison. On va trouver une douzaine de chaussettes orphelines. Puis il y en a qui ont des trous là-dedans. Fait que finalement, on s'amuse. C'est-à-dire qu'avec deux yeux, un bout de... Tu sais, on se crée, on fait un peu de couture, on revient. C'est drôle. Je reviens toujours à ça. À des activités presque ancestrales. On se croirait d'un fille de Caleb, mais il y a moyen de s'amuser, là, à sortir crayon, oui, puis ciseaux, mais aussi fil et aiguille, pourquoi pas. Puis on se crée nos petites marionnettes avec des vieilles chaussettes, puis bon, propres, là, idéalement. C'est le fun.
Ah, très cool. OK. On sait que, comme parents, nos actions parlent souvent plus fort que nos paroles. Puis la créativité, c'est une compétence qui est Pour avoir lu beaucoup sur le sujet, c'est une compétence du futur aussi. Le monde du travail de demain va avoir besoin de gens créatifs parce que c'est une compétence peut-être moins informatique que les ordinateurs sont moins capables de copier. Comment servir de modèle de créativité pour nos enfants? As-tu des conseils à donner aux parents qui nous écoutent pour qu'eux-mêmes mettent plus de créativité dans leur quotidien?
Ben, en fait, créatif, de fois, on mélange créatif et talent en art. Être créatif, c'est juste de patenter ses idées dans sa tête pour les appliquer, pour trouver une piste de solution, etc. Fait que ça peut être beaucoup de choses, être créatif. Des fois, les gens me disent « je suis pas créatif, je suis pas bon en aquarelle ou en art plastique en général ». Mais je pense qu'au quotidien, à chaque fois qu'on a un problème, c'est-à-dire un problème, si on essayait d'être créatif pour trouver une solution avec nos enfants, de jaser. Je trouve qu'on a tendance dans notre tête à essayer de trouver une solution sans discuter.
C'est vrai.
C'est-à-dire que souvent, dans notre journée, même d'adulte aussi, il arrive de quoi? Bon, et si on échange avec l'autre, faire un brainstorming, brainstorm dans notre tête, un peu comme si on faisait une mini-réunion de créativité ou de création pour sortir d'un problème. Je trouve qu'on communique pas tant que ça. On dirait qu'on essaie chacun, pour une question de pudeur, de gérer nos petits problèmes du quotidien. On essaie de trouver seul les outils, alors que l'autre à côté de nous a peut-être une solution créative plus cool, ou en tout cas qui nous permettrait d'évoluer là-dedans, de trouver notre piste de solution. Donc moi, je dirais jaser donc, tu sais, déjà en partant, puis faites un petit « Hey, j'ai un problème, qu'est-ce qu'on fait? » Tu sais, il n'y a rien à souper. Bon, le frigo est vide, d'ailleurs, c'est en plein même. Ce qui se passe chez moi aujourd'hui. Bon, là, évidemment, s'il n'y a plus rien, tu sais, c'est sûr qu'avec un peu de moutarde puis une tranche de zucchini moisie, je ferais pas grand-chose. Mais je faut aussi aller faire l'épicerie. Mais c'est-à-dire, OK, on a ça. Qu'est-ce qui manque? Comment on peut être créatif? Finalement, il te manque peut-être juste une canne de thon au dépanneur. Tu viens peut-être te faire un risotto, le fun, tu le sais pas. Tu te feras semblant que tu étais au restaurant. D'ailleurs, avec nos enfants, on peut se faire un menu. Tu sais, s'acheter une ardoise cheap au magasin à 1$ ou se fabriquer un menu entrée. Puis, tu sais, là, tu décides finalement, ah oui, c'est ça, je l'ai, toi, je parle, puis là, ça clique dans ma tête. Finalement, il restait un bout de tomate, 3-4 macaronis, pas grand-chose dans le frigo. Mais le fait qu'on complète ça avec un peu d'huile d'olive ou un bout de zucchini, puis que ça nous donne quelque chose de rigolo. Mais ce qui est le fun, c'est d'improviser, d'inventer les titres de notre... Alors, ça, au lieu de dire macaroni. Alors, comment on peut appeler ça? Puis on fait comme dans les grands restaurants, on déconne avec ça. Justement, okay. On va manger bien basic, mais ça s'appelle macaroni scandinave à la sauce au poivre sur son lit de zucchini grillé à la polonaise. Je dis n'importe quoi, là. Mais finalement, on rigole avec nos enfants parce qu'on est... on mange quasiment des grilled cheese toastés parce que le frigo est vide, il y a une tempête, on veut pas faire l'épicerie. Le char est enseveli de neige, fait qu'on reste chez nous, puis on se fait une espèce de menu rigolo où on donne un titre à notre bouffe. Tu sais, c'est ça de créatif, c'est ça que je veux dire.
Ça a l'air de rien, mais ça ajoute du punch à une activité qui est souvent monotone, lourde aussi,
le oui.
Semaine, là. Mais juste de rajouter des éléments comiques là-dedans, ça ajoute du plaisir à l'événement.
Fait que tu vois, c'est ça. Puis même, à la limite, prends-toi un bol de céréales avec un verre de lait, puis... s'il n'y a vraiment plus rien, ou si tu as envie de déjeuner ou souper, ça, c'est le fun de faire ça. C'est créatif, ça. Ouais. T'inverses ta journée. Je ne te dis pas que tu commences ta journée avec un T-bone, là. Mais tu t'inverses un peu. Tu fais une journée inversée. C'est le fun, ça. Ouais. Fait que dans le fond, tu passes ta journée en pyjama, tu soupes le matin, tu finis avec deux œufs bacon, tu switches toute ta journée de bord. Ça peut être rigolo, tu sais. Tu te fais une petite liste de ce que tu fais d'habitude, tu essaies de les faire à l'envers. Tu pars de la dernière, tu remontes jusqu'au début. Ça, je sais pas. Pas de fun. C'est un bain avec des chandelles, mais le matin. Puis après, tu manges un steak. Oui. Tu manges des œufs à 9h le soir avec deux toasts. Tu inverses toute ta routine. C'est drôle,
tu sais. Tu mets le café, comme ça, tu es sûr de passer une belle nuit, bien réveillé.
Exactement. Fait que tu vois, je sors plein d'idées, mais en parlant, ils me viennent en tête, ils me popent en tête.
Mais il faut être ouvert à
ça. Ouais, c'est ça, créatif. C'est ça. Tu sais, je suis pas en train de te dire qu'il faut faire du papier mâché. Être créatif, c'est ça. Là. Donner un nom drôle à ton macaroni ordinaire. Inventer un petit menu rigolo. Inverser ta journée. déconner avec une situation, jaser pour trouver une piste de solution. C'est ça, être créatif. Des gens confondent beaucoup le talent, talent lié aux arts avec le fait d'être créatif. C'est une autre. C'est cousin, mais c'est pas tout à fait la même affaire. Tu sais.
Parfait. Je vais poser une autre question. Comment réagir quand notre enfant du primaire nous montre tout fier à son dessin et que ça ressemble à un gros gribouillis nébuleux? Puis tu penses qu'il peut faire mieux? Comment on fait pour encourager les efforts chez son enfant sans le décourager de développer sa créativité? Ouais. Est-ce qu'on est trop jugeant comme adulte?
Non, mais moi j'ai un petit truc pour ça. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un qui a un bébé que tu trouves vraiment pas beau. Tu vas dire, il est éveillé, il a des gars. Garde donc les beaux yeux. Tu veux la salopette, toi, je te dis qu'il a la bouille. Je viens de dire quatre affaires, puis tu penses comme parent que je viens de te dire que ton enfant était beau, c'est pas vrai. J'ai rien dit. C'est un peu pointable comme exemple, mais je rigole, mais c'est ça pareil, tu sais. Fait que, waouh, je te dis que t'en. Là, évidemment, si tu vois que botché, il va pas dire. En tout cas, moi, je dirais pas, je vois que tu as mis beaucoup d'efforts. Je vais dire, t'as pas mal. Tu sais, t'en as des couleurs. Je vais commencer par des compliments, mais qui disent pas que le dessin est beau. Okay. Après, je vais orienter sur le fait que s'il met plus d'efforts, son dessin va être plus clair, va être plus. Moi, je vais la jouer de même.
OK, parfait. Fait
que l'idée, c'est pas de dire que c'est laid, mais c'est est-ce que tu es allé un peu vite? Okay. Si tu prends le temps de t'appliquer et que tu acceptes que ton résultat va être un peu plus lent, tu sais, ça veut dire qu'il n'arrivera pas tout de suite. On est dans l'instantanéité beaucoup. Okay. Fait que je vais dire, tu as utilisé des belles couleurs, je vois que tu as mis l'énergie. Est-ce que tu as mis vraiment le temps de le faire? Parce que je sens que ça a été un. Que c'est fait rapidement, puis si tu prends le temps de t'appliquer, ton personnage va être plus clair. Puis moi, je vais mieux comprendre ce que tu as fait aussi, tu sais. Évidemment, parce que c'est toujours délicat, parce qu'il y en a qui dessinent un éléphant, puis ça a l'air d'un lama, tu sais. Fait que quand même bien qu'il s'applique, c'est peut-être pas sa force, tu sais. Mais je dirais pas qu'il est beau s'il est laid.
OK.
Je vais. C'est ça. Je vais comme.
Un peu le décrire, décrire le dessin, décrire ce qu'on observe, féliciter les efforts s'il y en a eu, puis voir comment ça pourrait être amélioré la prochaine fois. Ou comment.
Et nommer le fait qu'il n'y a peut-être pas eu tant d'efforts que ça, ou en tout cas qu'il y a un manque d'efforts pour que la clarté du dessin puisse me faire réagir positivement comme ce à quoi s'attend l'enfant, on se comprend.
Ouais, c'est ça.
Fait que, évidemment, moi, c'est délicat parce que j'ai un rapport de gars qui fait de la BD, de la télé, etc. Quand je vois des enfants qui me montrent des dessins, absolument c'est des enfants avec lesquels je n'ai pas de lien affectif, je suis content de les voir, mais c'est Jérémy, 8 ans, de Bécomo. Je ne connais pas, lui. Fait que je suis qui pour y comprendre-tu? C'est la différence avec nos enfants. Tu peux toujours bien dire à ton enfant que son dernier lapin est plus ou moins réussi. Il ne va pas moins t'aimer. T'sais. Moi, le petit gars, il est venu me voir, il m'a apporté un dessin. Je suis qui pour lui dire qu'il n'est pas beau? T'sais. Fait que tu comprends-tu? C'est délicat. Fait que, mais je ne suis pas capable de dire qu'il est beau si c'est un bonhomme à lui mettre lettre.
Oui.
Ce que je fais, c'est waouh, t'en as mis de l'énergie. T'as pris le temps de me faire ça. Hey, as-tu vu des belles couleurs? Je te dis que, tu sais, bon. Il repart, il est heureux. Je veux pas qu'il se rappelle toute sa vie que la fois il m'a vu à Bécomo, je l'avais fait sentir cheap parce qu'il m'avait fait un bonhomme à lui mettre. C'est chiqui, moi, là, pour faire ça.
Moi, je fais un lien avec ma prochaine question. Imagine que tu dis ça à cet enfant-là, puis par la suite, il ne fait que des dessins violents avec des fusils et de la bataille. Est-ce que c'est grave? Parce que la question, c'est.
Si mais c'est pas que c'est grave, c'est que. Oui, c'est que son univers, son imagerie correspond à quelque chose qui est lié toujours à une violence, à une confrontation. Moi, j'irais fouiner un peu là-dedans. Je suis en train de dire qu'il devient psychopathe au même titre que. Une petite fille qui joue au Barbie ne devient pas un mannequin anorexique. Il faut faire attention aussi. Mais je me poserais des questions pourquoi sa fantaisie à lui est toujours liée à la violence, au meurtre, à la guerre, au fusil. Tu sais. C'est peut-être ce qu'il reçoit aussi tout le temps comme information. Est-ce que c'est sain? Est-ce que l'âge peut être capable de faire la part des choses? Est-ce qu'il regarde avec son père ou son grand frère ou est-ce qu'il joue à des jeux vidéo super élevés où il faut que tu tues des bébés dans une ruelle, c'est n'importe quoi, là, mais bon, c'est peut-être pas approprié selon l'âge qu'il a. Il fait ça, tu sais. Il devrait être capable d'avoir une fantaisie plus large.
Oui, une variété.
Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du fait que ça soit violent, s'il ne dessinait dans la vie que des petits fruits sans arrêt pendant 3 ans et demi, il dessine juste des baies sauvages, des framboises. Je me poserais aussi la question, c'est quoi le problème? quelle est sa fixation des fruits?
Est-ce qu'il regarde trop de fruits sauvages avec son père à la télé?
Non, je ne sais pas quoi, mais tu comprends? Il y a le fait que je trouve ça violent puis limitatif comme univers, mais au-delà de ça, il y a le fait qu'il y a une obsession que d'un truc. Mais moi, je ne suis pas un psy. Fait qu'il faut que je fasse attention aussi dans ma...
Parfait.
Mais si il y a l'impression que ces personnages sont toujours en train de régler leur conscience, tirant dessus puis en se tuant, moi, ma question, elle va au-delà du dessin rendu là.
Parfait.
Mais cela dit, graphiquement, ça peut être très redondant aussi, que tu dessines toujours des fruits ou toujours un gars qui a un gun. Ça fait que ton imaginaire s'exprime sur ton papier de façon limitée.
OK. Quand je propose à mon enfant de faire une activité créative, il sort ses crayons, fait un dessin en 5 minutes et ça finit là. Que me conseilles-tu de faire pour qu'il soit plus persévérant?
C'est sûrement un enfant qui ne fait pas assez de détails, qui ne fait pas assez, qui est dans les grandes lignes tout le temps. C'est-à-dire qu'il dessine un éléphant, il fait un rond, une trompe, deux oreilles, des pattes, puis il s'en va.
Ouais, ouais.
Il retourne à autre chose. Est-ce que ton personnage a des petits poils, des petits plis? Est-ce qu'il peut porter une bobette à cœur pour que ça soit rigolo? Est-ce qu'il y a une casquette? Est-ce qu'on peut décorer ses défenses? Est-ce qu'on peut lui faire des lunettes de rockstar? Si c'est une rockstar, ton éléphant, est-ce qu'il peut avoir une trompette ou une guitare électrique dans la trompe qui tient avec sa trompe? En fait, là, le truc, c'est de faire une fiche d'identité à notre personnage. D'où il vient? Qui il est? Est-ce qu'il y a des amis, un pire ennemi, une famille derrière lui, une mission secrète, des pouvoirs magiques? Est-ce qu'il est de bonne humeur, grognon, gourmand, etc.? Tu poses ces questions-là à ton enfant, puis qu'à chaque réponse, il doit s'arranger pour que la réponse soit dans le dessin. Il y en a pour 3/4 d'heure de plus.
Ah,
là, il y a du fun parce qu'il va s'approprier son personnage. C'est plus un éléphant qui est un peu désincarné, qui est un éléphant parmi tant d'autres, dessiné. Parce que c'est souvent ça l'affaire. L'enfant est détaché de son dessin. Il n'est pas attaché à son éléphant. Il ne s'attache pas à lui parce qu'il ne lui donne pas de corps. Il ne lui donne pas de substance. Donc, c'est un éléphant sur une feuille. Il passe à autre chose. Mais là, c'est plus un éléphant. C'est son éléphant avec une casquette qui joue du saxophone dans un groupe rock ou jazz, qui est plombier de formation. Il est mauve. Il habite dans l'espace puis il se nourrit que de gruau. Là, je viens d'improviser ça, là. Mais pendant que je te dis ça, si je l'illustre avec un bol de gruau, des petites lunettes de rock, ça, je suis en train de me l'approprier. J'ai bien plus de fun à le dessiner qu'au début. Alors là, ça devient quelqu'un de... Il devient quelqu'un, là.
Mm-hmm.
Il n'est pas comme désincarné de toute personnalité. Tu personnalises. Mais moi, en posant ces questions-là à l'enfant, puis en lui demandant de visualiser ses réponses pour qu'on puisse le comprendre, le voir sur le papier, là, c'est intéressant. Il y en a pour une heure de plus, puis là, son éléphant, il a de la gueule, là. Puis là, après, tu peux juste le relancer. Ah, tu me dis qu'il joue dans un groupe jazz, mais c'est qui fait... C'est une tortue qui joue du drum en arrière? Est-ce que c'est une loutre qui est au clavier? Est-ce que c'est un homard qui joue du bongo en arrière? Tu sais, on veut le savoir. Y a-t-il en tournée mondiale? Quel est le nom de le succès de son plus gros hit? Le nom de sa toune la plus connue? Est-ce qu'il y a une camionnette pour transporter l'équipement? Tu sais, on peut partir loin, là.
Ouais. Et je comprends que toutes ces questions posées par le parent vont aider l'enfant, comme tu dis, à s'approprier, à mettre des détails, puis à être de plus en plus fier de son dessin, puis de
compléter. Oui, parce que oui, ça devient ça. C'est ça. Il va être capable de le défendre. Moi, des fois, des enfants me dessinent un lapin. Je dis, c'est qui ton lapin? Pff, je ne sais pas trop. Tu es Bugs Bunny? Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais tu n'as pas l'air certain de pouvoir me dire qui il est. Mais si tu me dis qu'il travaille comme préposé dans une caisse populaire, ton lapin, et qu'il ne mange que des... chocolat noir et qu'il a... Tu sais, comprends-tu? On pourrait continuer là.
Ouais. La prochaine question, c'est mon enfant a de la difficulté en motricité fine et ses notes de bulletin en art plastique sont très basses puis ça le décourage. Il dit même qu'il n'est pas bon en art. As-tu des conseils pour pas faire en sorte, en fait, qu'il ne perde pas sa confiance en lui puis qu'il développe quand même sa créativité et son talent?
Bien, déjà, en partant, souvent, les enfants tiennent leur crayon trop loin de la feuille. C'est-à-dire, la main sur le crayon est trop loin de la mine.
Ah,
okay. Dans ce temps-là, au niveau de ta motricité fine, je le vois beaucoup, ça. Des fois, je travaille avec les premières années, deuxième année. Je leur demande, attention quand vous prenez votre crayon. Parce que tu peux aller chercher avec ta motricité fine et tes détails. Tu as un contrôle sur tes détails quand ta main est plus près de ta feuille, finalement. Beaucoup plus que... C'est comme si tu prends un bâton. C'est comme si je te dis, prends un crayon. Tape-le après un long bâton, un manche à balai, puis tiens-le loin. Tu n'es plus capable d'aller chercher ta... T'sais, plus tu es loin de ta surface sur laquelle tu travailles, moins tu as de contrôle sur ta motricité fine. Déjà, il y a ça, la façon de tenir l'outil. Ça, okay. C'est important. Ensuite, le reste, bien, ça peut être, on peut faire des exercices le fun, comme par exemple, tu dessines un gros poisson. Là, dans ton gros poisson qui est fait sommairement, là, ça soit des lignes de contour, tu sais, tu demandes à l'enfant de dessiner un gros poisson. C'est un gros poisson. Là, tu demandes de faire des grosses écailles. Il fait des écailles, il fait des rangées d'écailles. Dans chaque écaille, tu lui demandes de faire un petit rond. Il fait un rond dans chaque écaille. Dans chaque petit rond, après, il repasse, comprends-tu? Il refait des rangées, puis dans chaque petit rond, après, pouf, il refait une mini-étoile ou un X. Là, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on réduisait, on partait de large à moyen, à proche, à micro-petit. En tout cas, on se comprend, c'est que chaque écaille, le fait de faire des grosses écailles très larges, ensuite d'aller dans chacun faire un cercle, dans chaque cercle faire une étoile, et au milieu de chaque étoile faire un petit point, bien là, je suis rendu dans ma motricité fine. Parce que je suis parti de 35 écailles à 35 étoiles, 35 ronds, mais de plus en plus petit. Plus petit que l'autre affaire d'avant. Fait qu'à la fin, je me trouve à faire 35 mini ou 150 mini points dans des petites étoiles qui sont dans des petits ronds qui sont dans chaque écaille. C'est comme une façon graduelle de t'amuser. Puis pour eux, c'est un jeu. C'est un jeu parce que à la fin, quand ils regardent leur poisson, il est méga détaillé dans le fond. Il est esthétiquement hyper intéressant. Parce que tes petits X, tu peux changer de couleur pour faire tous tes petits X. Puis après, tu rechanges, tu prends une autre couleur pour faire ton petit point mauve dans chaque X. Puis chaque X, tu le fais dans un petit cercle qui, lui, était dans l'écaille de départ. Fait que là-dessus, là, ta motricité fine, l'enfant vient de faire. Mais il s'en est pas rendu compte parce que tu as réduit la grosseur de ce qu'il avait à faire par étape. Tu me suis-tu? Je sais pas si c'est clair, mon affaire.
Fait que,
encore là, fait que ça, c'est cool, ça.
Comme si à la maison aussi, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de note. Donc, ça reste un exercice amusant. Puis, si on le fait quelques fois avec des variantes, c'est là où l'enfant va aussi s'améliorer graduellement.
Exactement. Moi, ce petit jeu-là, j'ai déjà fait, là, que ce soit des écailles de poisson ou autre chose, mais c'est comme si on mettait quelque chose dans quelque chose, puis on remettait quelque chose dans le quelque chose qui était dans quelque chose, puis on fait ça à quatre ou cinq reprises. Quand on regarde le dessin de loin après, c'est intéressant, ça crée un effet de profondeur, de détail, et tu viens d'en faire de la motricité fine, puis il n'y aura pas le choix de tenir son crayon proche de sa feuille, de sa mine. Sa main est trop haute sur le crayon, il va avoir de la misère à faire ses petites mini-étoiles. Il n'y aura pas de contrôle. Parfait. Donc, automatiquement, il va prendre l'outil adéquatement.
Ma dernière question, Tristan. J'aimerais finir avec les règles d'or pour développer la créativité chez son enfant. Donc, quels seraient tes trois conseils, sans pas, tu sais pas... de façon succincte, évidemment, là. Les trois conseils pour les parents.
Oui, oui. Bien, observer autour de soi, mémoriser les choses, les transformer, parce que l'imagination, je le dis toujours, c'est le pouvoir que tu as de transformer les choses qui existent parce que tu les perçois autrement. Donc, regarder, observer autour de soi, mémoriser les grandes lignes de tout ça, s'amuser à les transformer sur papier. C'est vraiment une question d'observation. On pense qu'on n'a pas les outils en nous. Et puis dans le fond, on observe, on se trouve une napkin avec un stylo, puis c'est réglé. Là. Tu viens peut-être de te trouver un 20 minutes le fun à passer le temps.
Tristan Demers, merci beaucoup. Comme je disais, on a fait le tour du sujet pour les parents qui nous écoutent. Puis ça a été un plaisir de t'avoir encore aujourd'hui.
Un gros merci, puis salutations aux parents. Lâchez pas les bonnes idées. La créativité, c'est un outil de la vie dont on se sert quotidiennement. C'est comme une belle drogue. On ne peut plus s'en passer après ça, vous allez voir.
Merci, Tristan.
Merci.